La première phrase de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament est un résumé de tout le processus de la révélation. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Ce prologue énonce la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne, en établissant une comparaison entre les deux économies ou entre les deux révélations. Le mot « révélation » suggère l'idée d'une découverte. Révéler quelque chose, c'est faire connaître ce qui était inconnu ou secret. C'est littéralement tirer un voile, de manière à laisser apparaître l'objet caché. Cette définition traduit bien l'action de Dieu dans ses relations avec les peuples de la terre. Dieu a effectivement fait connaître aux hommes des vérités que notre raison ne saurait découvrir. Sa volonté à notre égard, par exemple, ses commandements et ses promesses. Il a parlé autrefois aux ancêtres du peuple juif par des prophètes comme Abraham, par exemple, comme Moïse, David, Ésaïe, Jérémie et bien d'autres. Tout cela ont été favorisés de quelques révélations. Dieu leur a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières, c'est-à-dire en vision ou en songe, par illumination mentale ou de vive voix, ou bien encore au moyen de ses anges. On a remarqué qu'au premier abord, cette variété donne l'impression d'une révélation très riche. En réalité, elle demeure incomplète et obscure. On peut même dire que la révélation en est à son stade embryonnaire. Elle se développe progressivement. Elle ne prendra corps que plus tard, dans sa plénitude, avec la venue du Christ dans le monde. C'est lui qui apportera la grâce et la vérité. En effet, Jésus-Christ nous donne d'un seul coup, en sa personne, la plénitude de la révélation. L'apôtre Jean rendra d'ailleurs de lui ce puissant témoignage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est donc le messager de la divinité. Tout en étant Dieu lui-même descendu parmi nous pour partager notre condition, et nous proposer un remède à nos péchés. Nous nous souviendrons qu'à son baptême par Jean-Baptiste et lors de sa transfiguration, Dieu rendit témoignage à celui qu'on appelait Jésus de Nazareth en déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Lorsque Jésus s'engage pleinement dans son ministère public, on sent qu'il a conscience de sa mission et de son autorité. Déjà à l'âge de 12 ans, à ses parents qui le croyaient égaré et qui lui reprochent son apparente indiscipline, il répondra « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ces mots-là indiquent bien qu'il était conscient de sa mission dans le monde. Il dira souvent « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'effet que ces paroles produisaient sur la foule était saisissant. Personne n'avait encore osé parler comme ce jeune rabbin de 30 ans. Les évangélistes nous rapportent fidèlement les mouvements variés de la foule, qui se traduisent surtout par une houle de murmures. La foule est tantôt électrisée, tantôt révoltée, tantôt conquise, tantôt méfiante, mais toujours captivée. On se disait, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? Ces déclarations étonnantes ne s'arrêtent pas là. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dira-t-il encore. « Nul ne vient au Père que par moi. » La foule, parfois excédée, cherchera à le lapider. Devant le tombeau de Lazare, on l'entendra dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il affirme même sa présence le jour du jugement, où toutes les nations de la terre seront assemblées devant lui. Ce sera le dernier jour. C'est très solennellement qu'il dira « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Avec ces paroles, Jésus vient d'attester définitivement son autorité. Nous savons que Jésus s'est choisi des apôtres pendant son ministère public, 12 hommes issus du peuple, humbles et pauvres, 12 hommes qui vécurent avec lui, dans son intimité, pendant près de 3 ans, 12 hommes qu'il enseigne et qu'il forme souvent à l'écart dans les lieux déserts où tout est calme, en prévision de la mission qu'il leur confiera plus tard et dont ils ne soupçonnent ni la nature ni l'ampleur. Une question se pose à présent. En l'absence de méthode technique d'enregistrement, comment ces pauvres hommes, sans instruction, pouvaient-ils se souvenir d'un enseignement aussi riche, aussi dense, aussi varié, aussi profond, lorsqu'on sait surtout qu'ils ne comprenaient pas toujours le sens de ce que le maître leur enseignait? La mémoire humaine est trop faible pour enregistrer fidèlement 3 ans d'enseignement presque continu. C'est à ce point que Jésus leur fera une promesse dont on pourra mesurer l'importance. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. De sorte que cette promesse, qui nous le savons, s'est réalisée, constitue pour nous une assurance que ce que nous avons dans l'Évangile est vraiment la parole de Dieu. Après cette promesse, Jésus pourra envoyer ses disciples en mission mondiale. Il pourra leur dire « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». L'évangile de Marc nous rapporte en l'occurrence qu'après l'ascension de leur maître, les apôtres s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce don du Saint-Esprit n'était donc pas qu'une simple influence, mais vraiment une présence du Seigneur lui-même. Cependant, l'autorité des apôtres et l'origine divine de leur message n'a pas toujours été incontestée. Les apôtres, notamment Paul, durent souvent défendre avec véhémence leur vocation. C'est ainsi que Paul écrira aux églises de la Galatie « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Tout au début de sa lettre, il se désigne comme apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. C'est donc en vertu de cette autorité que Paul peut parler et enseigner la vérité. De même, Pierre tient à dire à ses destinataires que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Aussi ne faut-il pas s'étonner si ces apôtres sont intransigeants quant à l'attitude du monde vis-à-vis de leur message. Ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit une fois pour toutes, jusqu'à la consommation des siècles, de la part de Dieu. L'apôtre Jean déclare avec fermeté, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Il ajoute même, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » Dans l'esprit de l'apôtre, celui qui passe outre les limites imposées par Dieu dans sa doctrine ne mérite ni l'hospitalité, ni même un simple salut. L'Épître aux Corinthiens spécifie que par l'Évangile nous sommes sauvés, à condition de le retenir tel qu'il nous a été transmis. Car si nous y apportons ou y consentons quelque changement que ce soit, notre foi est vaine. Il est donc possible de nourrir une foi vaine. Chers amis, nous avons devant Dieu la responsabilité de prendre connaissance de sa parole. L'Évangile est le livre que Dieu a placé dans les fondements de son Église. Si notre monde religieux est aujourd'hui divisé, n'est-ce pas en grande partie parce que la majorité d'entre nous préfère se laisser traîner ou guider ici et là par des experts? Nous devrions tous, au contraire, prendre connaissance de la parole que Dieu nous a donnée et qui est destinée aux plus simples, aux plus pauvres, aux plus humbles d'entre nous, comme aux plus fortunés. L'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie foi ne peut avoir d'autre origine que la parole de Christ, et elle ne peut avoir d'autre nourriture que cette même parole. Il est donc impératif que chacun d'entre nous lise ce qui est écrit, et ce qui est écrit l'a été par des témoins, lesquels rapportent ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs oreilles ont entendu et ce que leurs mains ont touché. Il est vrai, et c'est un apôtre qui le déclare, que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais il ajoute cependant que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Un sondage d'opinion révélerait bien vite que l'écrasante majorité de ceux qui se disent chrétiens n'a de l'Évangile qu'une notion très vague. À quoi peut donc bien ressembler leur christianisme? Notre monde religieux ressemble à une famille qui se querelle sur la question de l'héritage des biens d'un riche vieil oncle qui vient de mourir sans avoir laissé de testament. Le Christ, lui, nous a laissé un testament. Il l'a scellé de son sang sur la croix. Daignerons-nous le consulter pour mettre fin à nos divisions? Chers amis, n'entrevoyez-vous pas avec nous un espoir d'unité réelle entre tous les croyants par un retour à la source pure, à l'Évangile, où nous gagnerons tous à prendre un bain purificateur au contact direct de la parole de celui qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. »